Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. On ne s'était pas vu depuis l'année dernière. Alors je vous souhaite une bonne et nouvelle heureuse année. Et merci à François Claus d'avoir brillamment tenu la boutique pendant les fêtes. C'était notre Père Noël à nous. Le menu du jour, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Une série d'Arte et l'affaire qui secoue le Japon. Non, ce n'est pas Carlos Ghosn. C'est le Roi Lion qui serait un plagiat d'un manga des années 50. Il y aura évidemment le journal des médias, le journal de la culture. Ce sera avec Lise Prensac. Et le retour d'Hélène Manarino et son portrait inattendu vers 10h15. Notre infomédia avec Laurent Geoffrin, directeur de Libération, et Françoise Laborde, journaliste, ex-membre du CSA. Il s'explique sur l'affaire Maznev. L'écrivain a entretenu à 50 ans une liaison avec une jeune fille de 14 ans, Vanessa Springora. 30 ans plus tard, elle raconte ce traumatisme dans un livre qui sort aujourd'hui et elle s'étonne de la complaisance du milieu littéraire et des médias, car comme on dit, tout le monde savait. Aucun rapport avec ce qui précède les moins de 16 ans et leur versant lumineux, c'est prodige. Le magnifique concours musical de France 2 est désormais présenté par Marie-Sophie Lacaro. La grande finale, c'est ce soir et elle sera avec nous dans ce studio. Puis enfin, Cyril Eldin, journaliste, humoriste, comédien, on l'avait découvert dans le Petit Journal sur Canal+, il a quitté la télé, il revient pour une pièce, L'Opposition, dans laquelle il incarne Michel Rocard. Bonjour Céline Dacosta.
Mais bonjour Philippe Vandel.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour évidemment podcaster tout ou partie de l'émission sur Europe 1. Bonjour Lise Prensac.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Plaisir de vous entendre.
Plaisir partagé.
Il va y avoir votre journal des médias dans quelques instants, mais d'abord, elles sortent tout chaud du four de Médiamétrie, ce sont les audiences.
Bah oui, que je n'ai pas encore, Philippe.
On va vous les donner, donc on commence par le journal des médias. Oui, parce qu'on va expliquer aux gens, il est 9h07 et ça arrive tout chaud de Médiamétrie. Normalement, les audiences sortent à 9h.
Exactement.
Et aujourd'hui, on avait très très peu de publicité, donc cette petite minute qu'on met à profit pour les préparer, eh bien, on l'a eu.
Voilà.
Le journal des médias, le sommaire, avec une série qui fait polémique. Non, les audiences arrivent.
Oh là là,
c'est du tout chaud du four.
Voilà. Alors du coup, arrive en tête France 3 avec Meurtre en Auvergne qui était en prime time. Ils ont donc remporté la bataille de ces audiences d'hier soir. 3 756 000 spectateurs étaient devant leur télévision. Cela représente une part d'audience de 17,4%. Seconde position pour TF1 avec New Amsterdam, la série hospitalière. Un programme qui a convaincu 3 298 000 spectateurs, 14,7%. De part d'audience. Et puis enfin, c'est M6 qui clôt le podium à la troisième position avec L'Invitation. On va d'ailleurs en reparler dans le journal des médias. Cela représente 3 021 000 spectateurs, 14,4% de part de marché, Philippe.
Merci beaucoup, Lise. L'Invitation, c'est la pièce de théâtre.
Exactement, c'est une pièce
et
de théâtre.
Et vous avez une révélation à nous faire.
Exactement.
Ça a beaucoup, beaucoup fait parler hier soir. Le sommaire du journal des médias.
Une série qui fit polémique avant même sa diffusion. Une pièce de théâtre en direct coupée par la pub. Des écuries royales, le chef le plus étoilé au monde et des journaux plus chers et une retraite bien méritée.
Disons, quel sommaire. On va commencer par une polémique autour d'une série Netflix.
Elle n'était pas encore diffusée, qu'elle était déjà décriée. La série Messia, produite par Netflix, n'est disponible que depuis hier, mais la polémique enfle depuis plusieurs jours. En cause, le thème de cette fiction, l'histoire d'un mystérieux inconnu suivi par des milliers de fidèles à travers le monde. Alors, est-ce le Messie ou un escroc?
Qu'est-ce qu'on sait de lui?
Il guide des gens désespérés.
Alors, c'est une secte?
On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort.
Alors ajoutez à cela que l'action se passe au Moyen-Orient, que vous avez tout le cocktail politico-religieux pour créer une polémique. La Jordanie, un des pays dans lequel a été tournée la série, compte interdire la diffusion sur son territoire. Une pétition a été lancée pour appeler au boycott de Messia. Elle a recueilli plus de 4200 signatures. Les gens qui signent la pétition n'ont même pas vu la série, se défend Thomas Sisley dans les colonnes du Parisien. Si ça avait été une propagande anti-quoi que ce soit, je n'y aurais pas participé, explique l'acteur français qui incarne dans la série un agent de la sécurité intérieure israélienne. Quant au créateur de Messia, l'Australien Michael Petroni, il reconnaît que la série est provocatrice, mais provocateur ne veut pas dire offensant. En tout cas, les 10 épisodes de la première saison de Messia sont disponibles depuis hier sur Netflix.
Autre polémique potentielle, l'AFP, l'agence France Presse, serait également une agence de communication.
Et ben d'après le Canard Enchaîné, cela fait plusieurs semaines que l'AFP réalise des clips publicitaires pour le compte de McDonald's via une filiale nommée AFP Service, filiale qui a déjà travaillé entre autres pour Coca-Cola, AG2R ou encore le gouvernement du Qatar.
Curiosité, on en a dit quelques quelques mots d'un autre genre maintenant. M6 a diffusé une coupure pub pendant une pièce de théâtre.
Alors l'info, ce n'est pas que M6 diffuse de la publicité, hein, mais qu'elle réussit cet exploit alors que la pièce est censée être en direct. La chaîne diffusait l'invitation pour sa dernière représentation au théâtre de la Madeleine à Paris. C'est l'histoire de Daniel, un séducteur incarné par Gad Elmaleh, qui s'invente un ami imaginaire pour pouvoir tromper sa femme. Tout se complique quand sa femme demande à rencontrer ce fameux ami. Daniel invite donc un inconnu pour jouer ce faux ami.
Je t'aime.
Moi aussi je t'aime.
Moi je t'aime très très fort. Bon app.
Et oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien une pub que vous entendez partir. Alors je vous rappelle que la pièce est censée être diffusée en direct pour sa dernière représentation, mais ça c'est un détail.
Alors dites-moi Charlie, Daniel m'a dit que vous aviez beaucoup perdu au poker mercredi dernier.
Voilà, un gros blanc, des applaudissements coupés en plein milieu. M6 n'a pas fait dans la dentelle, hein, vous l'avez entendu. Et prouvé ainsi que c'était peut-être une captation en direct, mais en tout cas une diffusion en léger différé.
Alors a priori ce soir, il n'y aura pas de coupure pub pendant le documentaire sur les trésors du patrimoine équestre français. Documentaire diffusé sur France 5.
Oui, direction les grandes écuries du château de Chantilly dans l'Oise. Ce sont les plus grandes écuries d'Europe construites au XVIIIe siècle.
Ces écuries ont une âme. Je ne sais pas comment vous dire ça. Elles sont habitées quelque part. Quand on arrive sous le dôme, on est émerveillé, mais choqué par une telle beauté. Ensuite, on imagine les fêtes qui ont eu lieu. On imagine les gens qui ont travaillé là. On imagine ces 240 chevaux qui étaient présents au XVIIIe siècle. C'est complètement fou de faire une écurie pareille. Mais c'était le petit-fils de Louis XIV. Donc peut-être qu'en ayant vu son grand-père faire Versailles, pourquoi pas une écurie ?
Le documentaire nous fait justement aussi découvrir les écuries royales de Versailles, le haras national du Pin, le cadre noir de Saumur, la garde républicaine et ses 460 chevaux. Mais au-delà des lieux, le film réalisé par Céline Gall nous emmène à la rencontre des femmes et des hommes dont la vie est liée à ce patrimoine équestre français. Vous découvrirez ainsi Sylvain Pintus, le dernier fourbisseur français. Il s'occupe de réparer les sabres de la garde républicaine. Certains ont plus de 200 ans.
On travaille dans un musée vivant. Voilà, ouais. On s'attache à ce qui soit vivant. C'est-à-dire que nos sabres datent de février 1823 à 1922. Et on s'attache vraiment à ce que les plus anciennes pièces soient en service. Chaque sabre a une histoire. Ouais. Il a un matricule, il a des poinçons, il a des marquages. Et les marquages sont liés à la manufacture. Les matricules sont liés au régiment. Et les poinçons sont liés aux armuriers intervenant soit à la fabrication, soit à la réparation.
Chaque année, dans son atelier, Sylvain Pintus répare 400 armes blanches. Et dans d'autres ateliers, comme ceux de la Maison Hermès, ce sont des selles que l'on fabrique. Un artisanat au cœur de ce documentaire présenté par Sophie Jovillard. Elle est au micro d'Alexandre Omar.
En fait, on montre qu'on peut aller bien au-delà de la simple équitation ou du simple amour pour le cheval. On va bien au-delà de ça. On montre qu'il y a une excellence française grâce à cette équitation de tradition française, qui est quelque chose, une fois de plus, j'insiste, d'absolument unique au monde. Et c'est ça que nous allons montrer dans le film.
Les trésors du patrimoine équestre, c'est un documentaire de Céline Gall à voir ce soir donc à 20h50 sur France 5.
Et puis après les écuries de Versailles, les cuisines de Versailles.
Oui, avec Alain Ducasse, il est le chef le plus étoilé au monde. Il possède plus d'une vingtaine de restaurants, dont un dans le château de Versailles, où il revisite la gastronomie du temps de Louis XIV. C'est l'ouverture de ce restaurant en 2016 qui sert de fil conducteur à ce documentaire qui nous fait voyager avec les yeux d'Alain Ducasse.
Mon hobby préféré, c'est d'aller regarder et de trouver des produits, de les goûter partout dans le monde, sur une obsession.
Kyoto, c'est un concentré de culture, de nourriture. On est dans le sommet de l'excellence et du raffinement. C'est un des meilleurs dîners en 20 ans que j'ai fait au Japon.
Pour avoir goûté tous les caviars du monde, le chinois pour moi est le meilleur aujourd'hui. Il y a une méthode d'élevage importée d'Iran.
Oui, c'est la perfection.
Japon, Brésil, États-Unis, Chine, le réalisateur Gilles Demestre a suivi Alain Ducasse partout pendant 2 ans. Il a filmé autant des dîners de gala qu'un dîner de charité pour les sans-abri en plein cœur de Rio. Et pourtant, ce projet avec Alain Ducasse a bien failli ne pas exister. Écoutez le réalisateur Gilles Demestre au micro d'Alexandre Omar.
Il m'a dit non, direct. Il m'a dit que bon, il n'avait pas le temps, que ça n'intéressait pas tellement. Voilà, que lui, il était plutôt dans le travail et dans la construction de ses restaurants et dans le service à ses clients, et qu'il n'était pas là pour faire de la communication. On s'est revus pendant des mois et des mois. Puis au bout d'un moment, je lui ai raconté quand même le projet. et la façon un peu discrète dont j'allais le suivre, puisqu'en fait, moi, je suis parti tout seul avec une petite caméra dans ses pas. Puis, bah, on a lié cette relation de confiance. Mais ça a mis du temps et il a accepté que je parte avec lui. Et on a été dans des pays... on est partis tous les deux tout seuls au fin fond de la Mongolie, enfin, aux Philippines. On a été dans plein d'endroits comme ça. Et c'était génial de pouvoir le filmer.
Un document rare, vous l'aurez compris. La quête d'Alain Ducasse était sortie au cinéma en 2017. Il est à voir pour la première fois à la télévision ce soir à 22h20 sur France 3.
Ça ne vous a pas échappé, on est passé de 19 à 20, on a changé d'année et au passage, certains journaux ont changé de prix.
Oui, la presse n'échappe pas aux hausses du 1er janvier, vous l'avez peut-être constaté dans vos kiosques. Aujourd'hui en France, Le Parisien et L'Équipe ont augmenté. Le quotidien sportif coûte désormais 1,80€ en semaine, soit 10 centimes de plus qu'avant. Le Parisien passe de 1,50€ à 1,60€ et aujourd'hui en France, de 1,20€ à 1,30€.
Et Libération ne change pas de prix, son directeur sera avec nous, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour ça que nous l'avions invité. Lui n'en vendra bientôt plus des journaux après avoir fait ça pendant plus de 40 ans.
Figure bien connue du quartier Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris, Ali Akbar, dernier vendeur de journaux à la criée de Paris, prend sa retraite.
Le Monde.
Alors, Le Monde, c'est le journal qu'il vend le plus. Dans les années 90, il écoulait jusqu'à 1000 exemplaires par jour, raconte Le Point. Aujourd'hui, il n'en vend plus qu'une cinquantaine, entre 14h et 21h. Sachant qu'il ne touche que 30 centimes par exemplaire vendu, c'est peu. À 66 ans, il compte ouvrir un food truck avec l'un de ses 5 fils devant le jardin du Luxembourg. La mairie du 6e a donné son accord. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'argent pour s'acheter un triporteur électrique. Ali Akbar peut compter sur la solidarité des gens du quartier, et notamment l'association des anciens élèves de Sciences Po qui a lancé un appel aux dons.
Merci beaucoup Lise Pressac, à demain.
À demain.
À suivre l'infomédia du jour avec l'affaire Gabriel Matzneff. Aujourd'hui sort le livre de Vanessa Springora, Consentement. Et on en parle avec nos invités dans un instant. Sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Aujourd'hui sort le livre de Vanessa Springora qui dénonce les agissements d'un homme de 50 ans qui a profité de son consentement lorsqu'elle avait 14 ans, d'où le titre Le Consentement. Cet homme, c'est l'écrivain Gabriel Matzneff, figure du Tout Paris littéraire, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'a jamais caché son attirance pour les filles et les garçons de moins de 15 ans. Contrairement à l'affaire Weinstein, par exemple, tout était déjà dans ses livres et il ne se cachait de rien, comme en 1990 dans l'émission Apostrophe.
Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus.
Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. J'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas? Et donc, je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils. Une fille de très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée.
Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. Et alors, par exemple, d'ailleurs vous faites des bilans de temps en temps. Forme éblouissante donc, et mes amours en témoignent.
Il y a quelques jours, Bernard Pivot s'est justifié de sa complaisance par un tweet. À l'époque, la littérature passait avant la morale. Et cette réponse a généré à son tour une polémique. Polémique qui a notamment rejailli sur le journal Libération, qui en 71, mais pas seulement, vantait parfois des amours avec des très très jeunes filles, pour ne pas dire des enfants. Libé qui a consacré sa une, lundi au cas Gabriel Matzneff. Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Libération. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Dans l'édito que vous signez lundi, vous condamnez sans réserve la pédophilie.
Ah bah évidemment, oui, ça allait sans dire, mais ça va encore mieux en le disant.
Ça allait sans dire, mais si on était un lecteur ancien de Libération, on voyait des choses absolument ignobles que je ne peux même pas décrire ici.
Ah, c'était horrible, oui. Mais c'était dans les années 70, mais c'était pas une raison. Oui. Parce que cette histoire d'époque n'excuse rien, c'est vrai qu'à l'époque c'était interdit déjà, et par la loi. Oui. Il y avait une loi qui plaçait la majorité sexuelle à 15 ans, et évidemment tout ce qui était en dessous était de la délinquance. D'ailleurs, c'est ça le problème de Matzneff, c'est qu'on l'a invité tant et plus. On ne disait jamais que ce qu'il faisait était illégal. Et c'est un peu bizarre, quoi, surtout pour des journalistes.
Quoi. Alors comment à Libération, vous n'étiez pas, je précise, que vous n'étiez pas à Libé en 71.
Non.
Donc c'était...
Moi, je suis rentré en 81.
Voilà.
C'était... Moi, j'ai eu la fin de cette époque-là.
Voilà.
Parce que Serge Julie voulait faire sortir le journal de la marginalité gauchiste, si je puis dire. Et donc, il avait progressivement éliminé tout ce genre de... de dérapage.
Alors je précise pour qu'on soit bien clair, c'est que la loi qui interdit les rapports avec des gens de moins de 15 ans, oui. La loi est la telle, Libération voulait faire changer la loi.
Voilà. Enfin, c'est pas Libération, exactement.
Il y avait des pétitions.
On donnait la parole à ceux qui le voulaient, c'est pas exactement la même chose. Mais vous savez, la tribune qui demandait cette modification a également été publiée par Le Monde.
Je me souviens très bien.
Il y a un paradoxe dans cette affaire. Moi, je suis venu au devant des critiques, c'est normal, puisqu'on a été très coupable dans cette affaire, en tout cas dans les années 70. Et alors, les autres journaux, les autres radios, qui invitaient Maznev. Maznev, il avait table ouverte à la télévision, à la radio. Il était chroniqueur au Point. Et alors, on dit c'est Libération qui est coupable, ce qui est vrai. C'est pour ça que j'ai fait l'article. Mais enfin, on n'est quand même pas les seuls, quoi, me semble-t-il. Et par exemple, le fait de lui donner une chronique, il y a encore il y a encore un an ou deux, ça me paraît quand même plus grave que des crimes anciens, si vous voulez.
Et je précise que cette fameuse tribune, si je me souviens bien, il y avait Michel Foucault qui l'avait signée.
Oui, alors c'est ça le.
Il y avait Pierre Bourdieu.
C'est ça qui est difficile à comprendre aujourd'hui.
Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre, si je me souviens bien.
Absolument.
Je cite ça de mémoire, j'aurais dû prendre la liste
avec
moi.
Il y avait les meilleurs intellectuels d'extrême gauche ou de gauche radicale de l'époque, plus quelques autres. Et donc c'était très impressionnant pour les jeunes de l'époque. C'était des voix qui portaient. Il faut expliquer pourquoi c'était comme ça. Expliquer n'est pas excuser, encore une fois, puisque la loi était très claire là-dessus. Et puis le sens commun aussi, c'était horrible en fait. Et vous avez, il faut se reporter à une émission de France Culture, qui dure une heure, qui a été diffusée en 78. C'est très intéressant de l'entendre. Vous avez Michel Foucault, vous avez Guy Hockenheim, qui était un militant du front homosexuel.
Du Phare.
Du Phare, voilà. Et il y avait un avocat très connu. C'est une apologie de la pédophilie pendant une heure, sur France Culture, radio publique. Et il n'y a pas de contradiction. Dès que le journaliste, il est d'accord. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent que, c'est la thèse de Foucault en général, c'est que toute norme, toute loi est l'expression d'un rapport de force, de domination, entre les gardiens de la société, la bourgeoisie, je ne sais quoi, et les gens qui sont réprimés. Donc il y a les délinquants, il y a les fous, enfin les personnes dérangées mentalement, et puis il y a les pédophiles qui sont réprimés.
Ouais.
Or, toute répression est suspecte, toute contrainte est illégitime. Donc, voilà, les pédophiles ont le droit aussi à leur propre désir, etc. D'ailleurs, ils oubliaient à cette époque de remarquer que peut-être il y avait un rapport de domination aussi entre un adulte et un enfant.
Voilà.
Mais alors ça, ils n'en parlaient pas.
Et il y avait la question du consentement, qui est justement le titre du livre de Vanessa Springora, parce qu'évidemment, le consentement quand on est adulte, c'est pas tout la même chose que le consentement quand on a 10 ans, 12 ans, et l'autorité. Françoise Laborde, bonjour.
Oui, bonjour, comment ça va?
Je vais très bien, merci de vous enquérir de ma forme. Vous êtes ancienne membre du CSA, on vous a connu comme journaliste, vous êtes attaché aux droits de l'enfance de diverses façons. Est-ce que vous avez apprécié la prise de position du journal Libération face à ces ambiguïtés dans les années 70 à ce sujet, Françoise?
Je trouve que la position de Libération, en tout cas de Laurent Geoffrin, est honorable et il fait bien en effet de dire que Libé a eu grand tort. En même temps, moi ce qui me choque quand même, et je voudrais dire, cher Laurent, à quel moment vous trouvez qu'il est justifié de titrer dans la une de Libération les ébats de Gabriel Matzneff, parce que le mot ébat laisse entendre une situation somme toute tout à fait anodine et sympathique entre un adulte. Or, il ne s'agit pas d'ébats, il s'agit de viol de mineurs, puisque dans ses textes, Gabriel Matzneff reconnaît qu'en effet, il a des relations sexuelles avec des petits garçons qui ont 8, 10 et 11 ans. Je ne parle même pas du livre de Vanessa Springora. Donc il ne s'agit pas d'ébat, il s'agit de viol. Et la deuxième chose que moi j'ai trouvée extrêmement choquante, c'est le fait de demander à Luc Levaillant, qui avait déjà commis, si je puis dire, un portrait tout à fait élogieux de Gabriel Matzneff, de reproduire l'exercice en faisant le portrait de Vanessa Springora, ce qui permet à Luc Levaillant, au passage, de s'exonérer, j'allais dire, de ses félicitations passées à Matzneff. Et je trouve ça parfaitement malsain. On s'excuse, mais en même temps, on donne la parole à des gens qui ont eu des positions extrêmement ambiguës. Franchement, ça ne me plaît pas du tout.
Laurent Geoffrin.
C'est le mécanisme que je décrivais. C'est que si j'avais rien dit, évidemment, on ne viendrait pas me chercher des poux dans la tête, j'imagine. Ouais. Et je constate que ceux qui ne disent rien, on ne leur pose pas de questions. Hein. Parce qu'on
non
dit...
Non mais, cher Laurent, on dit, je comprends tout à fait.
Je peux terminer ma phrase. On dit, ce sont des intellectuels de gauche, tout ça c'est la gauche 68 ans, etc. Mais Matzneff, c'était un homme plutôt de droite d'abord, et il recevait les félicitations de Jean d'Ormesson, par exemple. Il avait ses tables ouvertes au Figaro. Il était considéré par beaucoup de gens de droite comme un écrivain tout à fait de qualité, honorable, amusant, mais sulfureux,
non,
etc.
Non, mais donc pardon,
c'est nous qui prenons, ouais. Mais il y en a d'autres qui, eux, ils se planquent.
Françoise Laborde.
Non mais, pardon,
on peut commettre aussi des erreurs dans la titraille.
Non mais attendez, Laurent, je ne parle pas du tout des orientations politiques de
Matzneff,
ni de Jean d'Ormesson. Je vous parle d'un papier qui est sorti cette semaine dans Libération.
Mais ce
je
papier
vous parle
de,
du fait que vous,
Levaillant,
en tant que patron, en tant que patron de Libération, vous avez... Je termine juste ma phrase, comme vous l'avez fait tout à l'heure. En tant que patron de Libération, c'est quand même assez étrange de demander à Luc Levaillant, encore une fois, de faire le portrait de Vanessa Springora. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on sait bien qu'écrire cet ouvrage, c'est extrêmement difficile. On sait que Vanessa Springora est une victime. On sait, parce que j'ai parlé avec Denise Bombardier, qui a parlé avec Vanessa Springora, que c'est difficile pour elle d'aller faire aujourd'hui tous ces témoignages, tous ces interviews pour parler de son livre, et que c'est forcément un sujet sur lequel elle se sent fragile. Et vous, vous trouvez rien de mieux que de lui envoyer Luc Levaillant pour faire son portrait. Franchement, quoi. À un moment donné, je comprends très très bien ce que vous dites sur Le Monde.
François,
je suis d'accord avec vous.
Laissez répondre Laurent Geoffrin. Oui, Laurent Geoffrin.
Si c'est possible. Luc Levaillant a changé d'avis. Le papier qu'il a écrit, c'était il y a 15 ans, me semble-t-il, hein, sur Matzneff. Donc il a commis une erreur à l'époque. Et depuis, il a évidemment changé d'avis sur toutes ces questions. Et il condamne la pédophilie ou la pédocriminalité comme les autres. Il n'a rien à voir avec la complaisance à l'égard de ses pratiques.
Françoise Laborde.
Il a été abusé.
Moi, j'ai une question.
Attendez, il a été abusé, comme d'autres, hein, comme tout le monde, pratiquement, presque tout le monde, sauf Denise Bombardier, par le côté c'est un écrivain prestigieux, qui écrit bien, qui est très cultivé, qui sont des très mauvais arguments. Donc, il a commis une erreur, et il me semble logique que ce soit lui qui fasse un portrait élogieux de la victime. Comme ça, c'est, au moins, les choses sont claires.
Mais, Françoise Laborde,
coupable.
S'il vous plaît, attendez, moi, je vais vous poser une question. J'entends très bien les arguments de vous deux, mais Françoise Laborde, imaginons que le portrait de Vanessa Springora ait été signé par une autre personne que Luc Levaillant. Que n'auriez-vous dit ? Et vous auriez-vous dit, est-ce que ça n'aurait pas été justement l'occasion pour Luc Levaillant de s'en expliquer ? Moi, j'ai lu son portrait et il s'explique et il s'excuse. Vous ne recevez pas ça comme un argument valable ?
Non, mais attendez, on est encore à nouveau dans des trucs parisiano-médiatico.
Mais non, vous, c'est un journal.
On s'en fout de Luc Levaillant.
Mais
ça
c'est
n'a
vous
aucune
qui avez
espèce
mis ça sur le tapis, ne dites pas qu'on s'en
non,
fout.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Luc Levaillant, il n'a pas besoin de se refaire une virginité sur le dos de Vanessa Springora. On est là en train de savoir s'il faut en effet lui accorder le pardon des offenses. Moi, je vous dis, à un moment donné, vous êtes patron d'un journal, la décence aurait été de ne pas lui envoyer un journaliste qui en effet a fait un truc. Ah, mais bien sûr que c'est mon avis.
Oui, ben vous avez tort.
Ce que je veux dire, c'est que
logique de demander à un journaliste
ambiguïté,
qui a changé d'avis en 15 ans sur la question de faire le papier et de faire un papier élogieux et qui prend le parti de la victime. C'est ce qu'il fallait faire.
Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer parce qu'il y a le cas particulier de Gabriel Matzneff, mais cette histoire dit beaucoup d'autres choses, comme l'affaire Weinstein dit beaucoup d'autres choses sur notre société et sur les médias. On en parle juste après ça.
Oui, la suite de Culture Média avec l'affaire Gabriel Matzneff, on en parle dans l'info média du jour avec nos invités et on revient dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Aujourd'hui sort le livre de Vanessa Springora, Consentement, qui dénonce les agissements d'un homme de 50 ans qui a profité justement de son consentement lorsqu'elle avait 14 ans. Cet homme, c'est l'écrivain Gabriel Matzneff. On revient ce matin sur toute cette affaire avec nos invités, Philippe, Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de Libération, et Françoise Laborde, journaliste. Elle était membre du CSA jusqu'en 2015 et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Françoise Laborde, sur le fond de l'affaire, vous avez salué par un tweet votre amie Denise Bombardier, la journaliste québécoise, qui était présente dans la fameuse émission de Bernard Pivot en 90, le jour où Gabriel Matzneff avait fait sa sortie fracassante. À l'époque, le lendemain, elle s'était fait traiter, enfin le lendemain et la semaine et le mois et l'année qui ont suivi, elle s'était fait traiter tous les noms.
Oui, absolument.
Racontez mais, ce qui s'est passé.
Non, mais ce qui s'est passé, c'est pas que Denise a dit des choses de bon sens, c'est-à-dire que normalement, le comportement de Gabriel Matzneff devrait tomber sous le coup de la loi et que c'était un pédocriminel, même si le mot était moins fréquent à l'époque. Ouais. Et en effet, elle s'est fait traîner dans la boue par toute l'intelligentsia germano-pratine et médiatique de l'époque. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on dise c'était à l'époque, mais c'est pas encore à l'époque. Je veux dire, il faut rappeler que Gabriel Matzneff a reçu un prix en 2013, qu'il allait être encore publié par je ne sais plus qui.
Le prix Renaudot Essai.
Absolument. Ouais. Et qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui étaient outrés par ça. Ouais. Je veux dire, on parle des unes de Libé de l'époque, mais je veux dire, même les unes de Libé de l'époque choquaient en effet un certain nombre de gens. Sauf que, encore une fois, on parlait de morale rancie. Moi, je vous signale que sur Twitter, quand j'ai défendu mon ami Denise Bombardier, il y a un certain nombre de gens qui m'ont expliqué que j'étais une défenderesse de la morale rancie. Ouais. Alors, si condamner la pédocriminalité, c'est être les tenants d'une morale rancie, je veux dire, on est mal engagé. Et en effet, je confirme ce que dit, alors, autant je suis sévère avec l'ambiguïté de Libération et d'Ange Geoffrin,
mais il y a
notamment
pas
le titre Les Ébats. Ouais. Non, mais laissez-moi juste terminer. Enfin, le titre Les Ébats de
Gabriel. Il faut lire le journal au lieu de s'arrêter sur un seul mot. Il y a eu un seul mot, peut-être une erreur, je veux bien le reconnaître, mais qu'on n'assimile pas l'ensemble de ce qu'on a écrit.
Laurent Geoffrin, laissez-la finir sa phrase. Laissez-la finir sa phrase.
Oui, d'accord, mais enfin, il ne faut pas dire des choses inexactes.
Laissez-moi terminer. Non, mais Laurent, vous êtes patron d'un journal, si vous ne relisez pas la une, ce n'est pas de ma faute, c'est la vôtre. Et si vous trouvez que Les Ébats est un
vous jugez, vous jugez l'ensemble de notre production sur un seul mot qui est maladroit.
Laurent, excusez-moi, je voudrais juste terminer ma phrase. Si vous permettez,
moi je ne vous permets pas de dire des choses fausses.
Et vous avez raison, de dire que... Non mais attendez, je peux terminer ma phrase un
moment
donné ? Merci beaucoup. Et vous avez raison de dire qu'en effet, il n'y avait pas que Libération, qu'en effet, le monde a été extrêmement ambigu, qu'en effet, Josiane Savigno continue à dire que Gabriel Matzneff est un grand écrivain, un type formidable, etc. Et qu'il n'y a pas de raison qu'en effet, il n'y ait que Libé qui soit accusé d'avoir une grande complaisance avec la pédocriminalité et celle de Matzneff dans les années, notamment 80, avec tous ces appels à changer la loi pour autoriser les relations entre adultes et mineurs. Vous avez tout à fait raison de le dire. Mais
Josiane Savigno, pour préciser, ex-critique littéraire au journal Le Monde. Oui, Françoise, allez-y, continuez.
Mais plus que ça, qui était la grande papesse, j'allais dire, du monde des livres. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, on n'accepte plus ça. Mais moi, ce qui me frappe quand même encore aujourd'hui, c'est qu'on entend des voix qui disent « Oui, mais regardez, on se retrouve dans une situation à l'américaine, avec une sorte de pudibonderie, etc. » Et il y a là-dedans encore... cette espèce de tragédie française qui fait qu'on est incapable de faire la différence entre le crime et la relation sexuelle entre adultes consentants. Et la relation entre un adulte et un mineur, surtout un mineur de moins de 15 ans, et surtout quand il s'agit d'une petite fille qui a entre 13 et 14 ans, dans le cas d'espèce Vanessa Springora, oui, ça relève du crime. Ouais. Et on est en France encore dans cette espèce de situation où on dit, mais après tout, si le garçon a du talent, qu'est-ce que ça peut faire ?
On le dit de moins en moins quand même. Écoutez, on le dit vraiment de moins en moins. On l'a vu avec l'affaire Polanski. Il y a le Figaro qui ironisait il y a quelques jours sur la presse de gauche. Ce qui était ringard est devenu tendance, écrit le Figaro. Les plus fervents progressistes reprennent aujourd'hui la morale hier seule défendue par ceux qu'on traitait à l'époque de vieux bourgeois grincheux et frustrés. Et le Figaro revient sur un numéro d'apostrophe de 82 qui circule énormément sur Twitter, dans laquelle c'est Daniel Cohn-Bendit qui raconte ses expériences sexuelles avec des enfants.
Je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout-petits, là, les tout-petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotique.
Vous me troublez.
Tout le monde rigole, la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Françoise Laborde, quand vous entendez cet extrait, qu'est-ce que cela vous inspire ?
Oh, bah écoutez, d'abord, je pense que il avait convenu, Daniel Cohn-Bendit, il avait avoué qu'il avait fumé un peu d'herbe avant de faire du plateau. Donc déjà, moi, je conseillerais à tous ceux qui sont en direct en plateau d'éviter de fumer et de boire. Ça leur évite de dire des conneries.
Attendez, c'est pas parce qu'on a fumé qu'on raconte qu'une petite fille de 5 ans vous déshabille. Quel est le rapport ?
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il le dit sans aucune vergogne et sans aucune gêne, et qu'il fait état de ses ébats en s'en vantant. Ce qui
il faut
est quand
pas
même,
dire ébats.
En effet, quelque chose de dramatique. Et en l'occurrence,
Françoise Laborde, il faut pas dire ébats, c'est pas bien.
Non, mais je sais que c'est pas bien de dire ébats, mais c'est exactement
même,
ce qu'il est en train de faire et de parler de ses ébats.
On l'a dit nous-mêmes.
Et en l'occurrence, dans le cas d'espèce, vous auriez pu aussi citer les propos de la pédopsychiatre célèbre, dont maintenant j'oublie le nom, qui en effet expliquait que les relations entre enfants et adultes étaient différentes. Donc tout ça participe en effet de la même chose, et tout ça est absolument condamnable. Et évidemment, Daniel Cohn-Bendit continue à payer, si je puis dire, et à raison. D'ailleurs, ces propos qu'il a tenus à l'époque.
Voilà. Laurent Geoffrin, à propos de Gabriel Mazneff, Libé titre, une impunité hors d'âge, c'est valable pour tout le monde. Il y a aussi le livre de l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, dans lequel il racontait ses aventures sexuelles avec des jeunes hommes prostitués dans les bars des Philippines. Selon les tournures des phrases, on pouvait penser qu'ils étaient mineurs. Est-ce que l'affaire Mazneff va avoir des dégâts collatéraux selon vous ?
Ah, certainement, il y a beaucoup de gens dont on va remettre en question le comportement, c'est sûr, bien sûr. Et comme ça bénéficie d'une espèce de complaisance malsaine, c'est la fin d'une époque. Enfin, je l'espère. Il y aura un débat aussi sur la loi.
Oui.
Parce que la loi, aujourd'hui, prévoit, je ne suis pas juriste, mais j'ai regardé la chose,
la prescription.
Une condamnation pour atteinte sexuelle.
D'accord.
Et non pas pour viol, aujourd'hui.
Oui.
C'est une relation entre un mineur de 15 ans, enfin moins de 15 ans, et une personne adulte, qui est consentement ou non, ça n'est pas pris en compte, c'est une atteinte sexuelle, entre guillemets, qui est un délit, qui n'est pas un crime.
Ce n'est pas un viol, vous voulez dire. Et donc la période de prescription est différente, c'est ça.
C'est pas défini par la loi comme un viol.
Et vous dire que la loi...
On peut dire que ça l'est.
Ouais.
On peut estimer que la loi est mal faite. Et probablement, il y a une discussion qui va s'ouvrir. Alors, à l'envers de celle des années 70, puisqu'à l'époque, on demandait l'abolition de la majorité sexuelle, c'est-à-dire que ça soit totalement dépénalisé. Là, on veut renforcer la pénalisation, si vous voulez. C'est une discussion qu'il faut ouvrir maintenant, c'est intéressant.
C'est un sujet difficile. Françoise
Laborde,
cette
question, oui, sur cette question, je rappelle qu'il y a eu une grande polémique au moment de la modification de la loi voulue par Marlène Schiappa. Et il faut rappeler quand même que ce gouvernement a refusé de mettre un âge minimum de consentement qui existe dans tous les autres pays. Dans tous les autres pays, on considère que à partir du moment où il s'agit d'un mineur qui a, mettons, moins de 13 ans, 14 ou 15 ans, ça dépend d'un pays à l'autre, et il y a une présomption de viol. C'est-à-dire que la charge de la preuve est inversée.
Ouais.
C'est-à-dire que l'adulte qui a une relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans est considéré comme un violeur. Et en France, on n'a pas voulu admettre qu'il y avait un âge minimum de consentement, et donc c'est à l'enfant de prouver qu'il a en effet été violé. Et on a vu encore tout récemment un cas où une petite fille de 11 ans qui s'appelait Sarah a été violée par un homme de 30 ans. Eh bien, le tribunal a requalifié les faits, a considéré que ce n'était pas un viol, mais une agression sexuelle, en effet. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on doit absolument modifier cette loi Schiappa, parce qu'on est aujourd'hui dans un système en France où il faut encore que la personne qui a été violée, l'enfant qui a été violé, apporte la preuve du fait qu'il s'est débattu, défendu, etc., etc. Donc on ne prend pas du tout en compte, justement, la minorité comme étant un élément constitutif du viol.
Et on voit que c'est un sujet extrêmement difficile. Françoise Laborde, vous êtes très sensible au sujet de la maltraitance des enfants. Vous avez publié en 2018 un ouvrage, Massacre des innocents, les oubliés de la République, coécrit avec Michel Créoff. Livre pour lequel, si je suis bien informé, vous n'aviez pas trouvé d'éditeur. Il était publié sur Internet, sur Amazon, c'est ça ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que tous les éditeurs un peu de la place, si je puis dire, que j'ai contacté, m'ont dit « Oh là là, non, tu sais, c'est trop difficile, c'est un sujet qui intéresse pas, c'est pas grand public, c'est des histoires affreuses, pourquoi on parlerait de ça, etc. » Et d'ailleurs, dans ce livre, nous avions dénoncé la complaisance française à l'égard de ça, et on avait fait un chapitre sur Gabriel Mazneff en expliquant en effet que ce garçon avait tribune partout et était reçu dans les meilleurs cercles littéraires parisiens.
Ouais.
Et ce livre qui a été publié en effet chez Amazon directement, fait l'état des lieux de la situation. Il faut quand même rappeler qu'en France, aujourd'hui, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a 8200 viols de mineurs par an. Ça veut dire qu'un mineur est violé toutes les heures en France. 70% des plaintes sont classées sans suite. Et les condamnations pour viol ont diminué de 40% en 10 ans. Donc on est vraiment dans une situation où on a en France une tolérance à l'égard des violences sexuelles, une tolérance à l'égard du viol qui n'a d'équivalent dans aucun autre pays. Dans aucun autre pays. Et quand on a voulu, avec un certain nombre d'associations militantes, féministes, de défense des enfants, militer pour avoir justement un seuil d'âge de consentement, les vieux barbons du Conseil d'État ont répondu « Ah oui, mais vous comprenez, c'est très compliqué parce qu'on aurait une présomption de culpabilité au lieu d'une présomption d'innocence. » Et donc on est dans cette espèce de culture du viol, en effet, où on considère que c'est pas grave. Un viol de mineur toutes les heures, vous imaginez un peu?
Personne, et la moitié des enfants violés personne, en moins de 10 ans. François Laborde, personne ne considère ici à cette table et les gens qui nous écoutent que ça n'est pas grave. Comment vous expliquez ce que vous dénoncez comme une espèce d'omerta, de laisser aller?
Mais parce que rappelez-vous l'affaire DSK qui est pas si loin. Enfin, quand il y a eu l'affaire DSK, on a eu tout le monde nous expliquait qu'il n'avait pas pu violer la femme de chambre au Sofitel parce qu'elle était moche, grosse et noire, pour dire les choses un peu vulgairement. Ensuite, les mêmes nous ont expliqué que c'était pas du tout son genre et que c'était un garçon charmant et que ça pouvait pas être un violeur. Donc on est tout le temps dans cette espèce.
Je me souviens d'un ancien ministre qui avait dit il y a pas mort d'homme.
Absolument. Oui. Et un autre qui avait parlé de troussage de domestiques.
Oui, c'est un directeur
donc on
journal.
Est tout le temps dans.
Oui. Non, c'était pas Laurent Geoffrin.
Non, c'était pas Laurent Geoffrin. Non, non. Il faut rendre grâce à Laurent Geoffrin qui.
Mais non, mais j'ai eu un débat. Non, mais attendez, j'ai eu un débat avec Badinter et effectivement, ça s'est mal passé parce que Badinter défendait Strauss-Kahn. C'était son ami, je peux le comprendre. Mais je n'étais pas sur la même position, donc ça a été assez vif.
Ouais, juste un mot, parce qu'il y a quand même l'affaire Mazeneuve se déplace aussi sur un autre terrain, sur celui de la morale de la République. On a appris que Gabriel Mazeneuve recevait une allocation du Centre National du Livre, entre 7 000 et 8 000 euros par an. Est-ce que vous pensez que cette allocation devrait lui être retirée? Ou ça n'a rien à voir?
Moi, je pense en tout cas que Franck Riester, le ministre de la Culture, s'honore en disant qu'il va regarder le cas et que, en effet,
il a dit l'aura littéraire n'est pas une garantie. Il a dit l'aura littéraire n'est pas une garantie d'impunité, mais il n'a pas dit que Gabriel Mazeneuve allait perdre les droits de cette allocation.
Bah, c'est-à-dire qu'en effet, on voit pas très bien pourquoi la République finance directement ou indirectement, en l'occurrence directement, l'activité d'un pédocriminel, parce que ça reste quand même un pédocriminel, Gabriel Mazeneuve. Il est peut-être auteur, mais il est aussi pédocriminel. Donc c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Voilà. Alors après, on nous explique qu'il a 82 ans, que c'est un vieux monsieur et que c'est compliqué pour lui. Oui, mais enfin, c'est encore plus compliqué pour toutes les personnes qu'il a violées.
Merci beaucoup, Françoise Laborde. Merci, Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Merci de vous être expliqué ici. Et merci de ne pas avoir augmenté le prix de Libération. C'est assez rare pour être signalé. Il est à combien, Libé?
À 2 euros.
Merci beaucoup à vous. Culture Média continue.
Oui, notre prochaine invitée, Marie-Sophie Lacaro. Elle présente ce soir la grande finale prodige sur France 2. Et on l'accueille dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Marie-Sophie Lacaro.
Bonjour Marie-Sophie Lacaro.
Bonjour Philippe.
Vous êtes présentatrice des journaux de 13h de France 2. En ce moment, c'est vous qui tenez le 20h. Vous êtes le joker d'Anne-Sophie Lapix. Vous faites pas cette tête, c'est formidable.
Mais oui.
Et vous venez pour la grande finale de Prodige. C'est ce soir sur France 2 à 21h. C'est quoi Prodige? Comment on peut le dire?
Alors Prodige,
le résumé, pardon.
Ouais. Pour le résumé, c'est un grand concours ouvert aux enfants. Là, ils ont entre 10 et 16 ans et ils ont un talent. Ils maîtrisent leur art comme rare.
Il faut dire en concours de quoi? En concours de musique classique.
Oui, j'oublie l'essentiel. Concours de musique classique. Ils chantent, ils dansent, ils jouent d'un instrument et ils maîtrisent leur art comme très peu d'autres enfants de leur âge. Ils se produisent donc devant un jury d'exception, Gauthier Capuçon, Marie-Claude Pietragala et Elisabeth Vidal.
Il faut dire Elisabeth Vidal qui est soprano.
Gauthier Capuçon, le grand violoncelliste, et Marie-Claude Pietragala,
Edith Pietra, la danseuse. Qu'on connaît parce qu'on la voyait dans Danse avec les stars. Donc celle-ci, elle est très, très, très connue du grand public. Vous avez pris le relais de Daphné Burki et surtout de Marianne James qui avait lancé le programme. Vous avez été étonnée qu'on vienne vous chercher?
Oui, je m'y attendais pas. Oui, clairement, je m'y attendais pas. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai même pas demandé un petit temps de réflexion. Cette émission, je la regardais avant. J'en étais fan. Ouais. Et on me la porte sur un plateau. J'ai énormément de chance.
Et vous êtes musicienne vous-même?
Non, je suis pas du tout musicienne, mais j'ai fait de la danse.
D'accord.
Beaucoup de danse classique, contemporaine, jazz.
D'accord.
Donc pas musicienne, mais danseuse.
Alors, je dois dire que c'est quand même très impressionnant. J'ai vu l'émission. J'ai pas vu toute l'émission. Parce que
très
je me
bien,
suis arrêté.
Vous ne savez pas.
Je ne sais pas qui a gagné. Je me suis arrêté avant la fin, comme je fais toujours quand je regarde les émissions. Super. Je ne vois pas les 10 dernières minutes pour ne pas savoir comment ça se termine, génial. Pour être dans la même situation que les gens qui vont voir le programme. Mais je dois dire que c'est très, très, très impressionnant. On va entendre Livia. Elle a 16 ans. Elle chante du Handel. Ah. Et pour reprendre l'adjectif que vous employez à son sujet, c'est fascinant. On va entendre un peu sa voix. Je précise qu'elle a 16 ans seulement.
16 ans et, vous l'entendez là, elle n'a jamais pris un cours de chant. Vous entendez bien. Livia, jusqu'au concours, elle chantait Beyoncé sous sa douche.
Ouais.
Et un jour, une prof lui a dit « Mais tu devrais faire ce concours. » Ah bon ? Elle s'est présentée, elle a envoyé sa cassette. Et évidemment, on est sous le charme, elle est fascinante.
Et j'en ai la gorge nouée à
oui,
l'entendre
mais je
chanter.
Et moi, j'ai une petite larme.
Vraiment, c'est très impressionnant. Ah. Et tiens, alors, parmi le jury, comme ça on va pouvoir sécher nos émotions, il y a la chanteuse lyrique Elisabeth Vidal. Ouais. Voici ce qu'elle dit d'elle, ce qu'elle dit de Livia. Et elle-même, Elisabeth Vidal, est en larmes.
Livia, je suis profondément émue parce que une grande fleur de l'art lyrique s'est éteinte il y a très peu de temps. C'est Jessie Norman. J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec elle. Elle m'a apporté énormément. Parce qu'elle n'était pas avare de ses conseils techniques. Et tu sais, c'est comme au printemps, il y a une branche de bois, il n'y a plus les feuilles, les fleurs, et tout d'un coup, un bourgeon sort de la branche. Et ce bourgeon, c'est toi.
Elle cite Jessie Norman parce qu'elles ont la même couleur de peau, on va le dire. Elle vient de Martinique, c'est absolument pas les clichés des familles CSP plus qui mettent leurs enfants dans les écoles pour apprendre la musique classique. On n'est pas du tout là-dedans.
Non, on n'est pas là-dedans. Puis on n'est pas non plus dans les enfants, les bêtes de scène, vous voyez, qu'on fabrique et qu'on pousse à se produire pour être les meilleurs. Quand vous les voyez en coulisses, ces enfants, ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur téléphone,
ils font des conneries.
Voilà, j'allais dire des bêtises.
Voilà, c'est pas des singes savants.
Alors, non, pas du tout.
Ceci dit, il n'y a jamais aucune critique dans le programme. Parfois, on va le dire, parfois, il y a pas dans le cas de Livia, mais parfois, il y a des faussetés, il y a des petites erreurs. Alors, vous ne le dites jamais, je me suis dit. Est-ce que c'est coupé au montage ?
Les jurés le font remarquer. Le but, quand même, c'est
très
que... Très peu.
Pietra relève les petites fautes de pied.
Oui, parfois. Parfois, le jury se lève et vient à côté de l'enfant pour lui dire « Tu vois, cette pirouette, tu aurais peut-être pu la faire comme ça. Cette note, tu aurais pu aller la chercher jusque-là. » C'est un jury très bienveillant. Oui, bien sûr, ce sont des enfants, mais un jury aussi très exigeant. Et ces enfants-là, ils sont en attente de conseils. Ils viennent aussi pour ça, pour qu'on leur dise « Oui, c'est très bien ce que tu fais, mais tu peux aller plus haut en agissant ainsi. »
Alors, on vote pour des voix, mais il y a aussi du storytelling, comme on dit dans The Voice. On vote également pour des parcours de vie. Le premier candidat, c'était un pianiste de 15 ans. La première chose que lui dit sa sœur après sa prestation, c'est « Il est moitié chinois, moitié français, moitié américain. Et la musique classique réunit toutes les cultures. J'ai cru que c'était Franck Riester, le ministre de la Culture, qui parlait. »
Elle nous a bluffé.
Oui.
Elle nous a bluffé. Je ne m'attendais évidemment pas du tout à ce qu'elle nous réponde ainsi. C'était étonnant, oui.
Et il y a d'autres candidats tout aussi étonnants. Vous restez avec nous, on va vous les faire entendre.
Oui, on parle ce matin dans Culture Média de la finale de l'émission Prodige ce soir sur France 2, présentée par Marie-Sophie Lacaro, qui est notre invitée. Et on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Prodige, c'est l'émission de France 2 où 16 jeunes talents âgés de 10 à 16 ans ont montré leurs compétences en danse, musique et chant classique. 10 finalistes ont été retenus et on connaîtra ce soir le ou la grande gagnante. Une émission présentée par Marie-Sophie Lacaro qui est notre invitée ce matin, Philippe Vandel.
Alors je l'ai dit, du côté des instrumentistes, le premier candidat est un pianiste de 15 ans, moitié chinois, moitié français, moitié américain. Oui, je sais, ne m'écrivez pas, ça fait 3 moitiés. Je sais. La deuxième candidate...
Il compte bizarrement.
La deuxième candidate, une petite flûtiste de 11 ans, absolument magistrale. Et le troisième candidat, c'est Carl Philippe. Je vous le laisse découvrir.
Je m'appelle Carl Philippe, j'ai 15 ans. Je suis autiste Asperger. et je suis harpiste. J'ai commencé la harpe un peu avant l'âge de 9 ans. Quand j'ai découvert cet instrument, j'ai vu que le son était magnifique, que ça faisait penser à la nature, à la vie. Et bien avant que je ne joue, mes mains avaient un peu transpiré, mais quand je jouais, je me sentais bien. J'ai pensé un peu à la nature, à un coin de la nature très reculé.
Moi, j'ai failli pleurer, oui. On est surtout très, très fiers de lui, quoi.
Tout le monde était content.
Ma plus grande fierté, c'est la beauté de son cœur.
C'est sa maman qui parle. C'est la beauté de son cœur. Le parcours de vie passe avant la musique ?
Non, non. C'est un... Non, c'est en plus, c'est à côté, ça en fait partie. Non, on ne choisit pas les candidats en fonction de leur parcours de vie. Maintenant, c'est vrai que Carl Philippe... nous bluffe dans cette émission. Il nous a bluffé pour le show de Noël la semaine dernière. Et vous allez voir ce soir, oui, il est bouleversant, forcément, forcément. Et quand ses parents, en plus, vous disent que dans cette aventure, ce qu'ils en retirent, c'est qu'ils n'avaient jamais vu leur fils aussi épanoui. Ils l'ont laissé vivre avec les autres enfants. Il a évolué seul et il était heureux. Et il nous montre ce soir que... Oh, je suis touchée.
Mais je l'entends, vous êtes touchée. Vous savez à quoi ça s'entend? Vous retrouvez votre accent?
Ah bah voilà, on y revient.
J'allais vous le dire. Normalement, vous parlez sans accent. Et là, vous retrouvez votre accent parce que vous êtes émue. Vous parlez
c'est mon cœur, là.
Exactement, parlez votre cœur. Vous avez également réinvité Julie et Camille Berthollet, qui avaient gagné le concours il y a 6 ans.
Oui.
Entre-temps, elles sont devenues des stars mondiales. Enfin, c'est Camille qui avait gagné, mais les deux, elles remplissent des salles immenses de concerts en Chine, en Italie, en Espagne. Est-ce que dans la promo de cette année, il y en a que vous voyez faire cette carrière?
Ah, oui. Oui, oui, ça peut. Mais moi, je ne veux pas donner de nom. Parce que
je
vraiment, je me suis attachée à tous.
Ah, mais je pensais que vous alliez me dire, je ne veux pas dire qui va gagner.
Ah bah ça, c'est certain, vous ne l'aurez pas. Mais je sais que vous ne voulez pas le savoir non plus. Mais non, mais honnêtement, je me suis tellement attachée à tous que je ne peux pas en mettre un en avant plus que l'autre. C'est impossible.
Alors, je vais le dire, c'est comme à l'école des fans de Jacques Martin, sauf que ce n'est pas du pipeau. On a vraiment envie de mettre 10 à tout le monde. Alors, du coup, sur quoi se fait la différence?
Alors ça, c'est le jury.
Ouais.
Hein, c'est son bazar à lui. Moi, je ne veux pas y mettre le nez.
Mais racontez pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, sur quoi ils jugent? Parce qu'ils sont tous excellents.
Oui, ils sont tous excellents. Alors, ils jugent évidemment sur l'évolution entre aussi la demi-finale, on va dire, et la finale, ce que l'enfant est capable de sortir, et surtout sur la marge de progression. Il faut se projeter sur ce que le prix qui va être décerné va pouvoir apporter à l'enfant. Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Et oui, je pense que l'émotion aussi que fait naître l'enfant et sa prestation chez chacun de nous, forcément, ça joue.
Vous êtes content des audiences ?
Lesquelles ?
Bah les vôtres.
Oui.
Ça marche bien. Alors, il faut dire, quand l'émission Prodige a démarré, ça faisait 3,5 millions de téléspectateurs. Maintenant, c'est 2,5 millions. Ça avait baissé que Daphné Burki. On va pas se mentir. C'est la raison pour laquelle c'est plus Daphné Burki qui présente. Et là, ça marche mieux.
Oui, en tout cas, le show de Noël la semaine dernière a mieux marché que la saison dernière. Donc, on est ravis que ce concours perdure. C'est la 6e saison.
Ouais.
Et on veut surtout que ça continue.
Voilà. Ah, j'ai une petite remarque, ça continue pour l'année prochaine. Dites aux enfants qu'on dit les jurés et non pas les jurys.
Ah.
C'est les jurés qui forment un jury. Mais on ne dit pas les jurys de l'émission. Je dis ça parce que comme ils le disent tout le temps et que c'est enregistré...
Et puis vous voulez leur faire des critiques, vous, Philippe. J'ai bien compris.
Non, mais je pose des mots et j'aime bien poser des questions.
Oui.
Qu'est-ce que je vous demandais? Vous en avez tous vos projets. Vous vouliez présenter un magazine. Est-ce que ça va se faire ou pas?
On verra si ça va se faire. En tout cas, d'avoir eu cette émission Prodige, c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir, ça me sort du journal, de ce carcan que j'adore et que je ne veux surtout pas quitter. Mais voilà, ça fait plaisir de faire autre chose, de s'aérer un peu, puis d'être soi-même dans Prodige. Voilà, je peux pleurer, je peux rire, ça fait du bien.
Vous serez ce soir aux 20h?
Oui, bien sûr.
Mais là, très très... Donc vous allez vous annoncer?
Ah ouais. Europe 1, le 20h et Prodige,
et
une belle journée pour moi.
J'ai une dernière question, c'est une révélation que vous avez faite à Centre Presse Aveyron, c'était le 2 juin dernier, et vous avez dit « La seule chose que je déteste, ce sont les respunchous ». C'est quoi les respunchous?
C'est une asperge sauvage et c'est un goût très amer. Moi, j'aime pas, mais dans l'Aveyron, on adore.
On a découvert quelque chose.
Mais bien sûr, les respunchous. Si vous aimez les respunchous, vous n'avez qu'à écrire
à
Marie-Sophie
Lacaro.
La grande finale de Prodige, c'est ce soir sur France 2 à 21h.
Oui.
Et juste auparavant, vous serez au 20h de France 2.
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous en direct
beaucoup.
Un 2 janvier.
Merci.
Et Culture Média, ça continue.
Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture avec le comédien Cyril Eldin qui sera bientôt à l'affiche de la pièce L'Opposition. C'est Mitterrand contre Rocard au théâtre de l'Atelier. Une pièce pièce dans laquelle il incarne Michel Rocard. Ensuite, Hélène Manarino va évidemment nous dresser son portrait inattendu. Et puis, dans les indispensables, on va parler d'un des plus beaux dessins animés de Disney, Le Roi Lion. Mais l'occasion pour Clément Le Saff d'y rétablir une injustice. Et il paraît qu'il y a une affaire de plagiat. Enfin, une série française produite par Arte. Ça s'appelle Une île. Margot Barallon nous éclairera. Elle en revient de cette île dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Mais d'ores et déjà, vous pouvez podcaster tout ou partie des 2h de notre émission sur Europe 1.fr. A tout de suite.